Bon, prions. Merci, notre Père, pour ta parole, cette parole qui nous donne la vie, cette parole qui nous gouverne, qui nous régénère, qui nous enseigne, qui nous conduit sur les chemins de la vie. Et nous voulons te demander ce matin de nous parler par elle. Donne-nous cette vie, cette eau vive, pour que nous puissions être pleinement satisfaits en toi. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à garder vos Bibles ouvertes. Donc, si vous les avez fermées, c'est la page 689. Alors, ce matin, nous allons terminer notre série dans l'Évangile de Jean. Alors, les prédications du mois de décembre vont porter plutôt sur le thème de Noël, pas celui de la semaine prochaine, qui portera plutôt sur le thème du baptême. Mais après, au mois de janvier, on a le projet d'aborder les 12 premiers chapitres du livre de la Genèse. Donc là, c'est un peu la fin de cette série dans l'Évangile de Jean. Et dans notre texte ce matin, nous allons assister à une rencontre exceptionnelle entre Jésus et une femme samaritaine. Et nous allons observer Jésus à l'œuvre. Alors ce matin, je n'ai pas de structure particulière, pas trois points, mais on va suivre le texte verset par verset et découvrir au fur et à mesure comment Jésus conduit cette femme à la foi. Et non seulement cette femme, mais aussi beaucoup de Samaritains avec elle. Ce sont les Samaritains eux-mêmes qui résument l'enseignement essentiel de ce passage. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil sur le verset 42. Donc c'est un verset qui est dans le prolongement de notre texte. Et les Samaritains disaient à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il, donc Jésus, est vraiment le sauveur du monde. » Ce passage veut nous montrer que Jésus est le sauveur du monde. Pas simplement celui des Juifs, pas simplement celui des gens bien, pas simplement le sauveur de nos amis ou les gens qui pensent comme nous, mais du monde entier, tous ceux qui mettront leur foi en Jésus ou qui croiront ses paroles, ça revient au même. Voilà où notre passage veut en venir. On va garder cela à l'esprit. Dans les 6 premiers versets de ce passage, l'apôtre Jean, celui qui a écrit ce livre, fait la mise en scène. Donc il plante un peu le décor. Jésus quitte la Judée pour retourner en Galilée. Mais pour retourner en Galilée, il faut traverser une contrée qui s'appelle la Samarie. Et Jean semble marteler ce point à plusieurs fois dans ses premiers versets. Car ce n'est pas un détail sans importance. Alors l'essentiel à savoir, c'est que les Samaritains et les Juifs ne sont pas des amis. Il y avait une vraie hostilité entre eux. Et les Samaritains avaient une version un peu édulcorée de la foi juive. Et les Juifs les considéraient comme un peu des hérétiques et même sur le plan ethnique un peu impur. Alors au chapitre 3, nous avons rencontré Nicodème, ce docteur de la loi, un bon Juif. Et Jésus et Nicodème ont parlé de comment un homme peut entrer dans le royaume. Comment un homme peut devenir chrétien? Jésus lui a parlé de l'œuvre souveraine de l'Esprit, mais aussi de la nécessité humaine de mettre sa confiance en lui, en son sacrifice à la croix. Et au chapitre 4, la question semble être celle de savoir qui, pas comment, mais qui peut entrer dans le royaume de Dieu? Qui peut devenir chrétien? Et ensuite, Jean nous dit que Jésus et ses disciples sont arrêtés au puits de Jacob, à Sichar, en Samarie. Et pendant que les disciples cherchaient de quoi manger en ville, Jésus rencontre une femme samaritaine au bord du puits, aux environs de midi. Alors, il a dû faire très très chaud et Jésus avait bien soif. Alors, si on se souvient des histoires des patriarches dans l'Ancien Testament, on y voit plusieurs histoires de puits et de rencontres importantes, notamment entre les femmes, des femmes et des hommes. On peut penser à cette histoire dans le livre de la Genèse où le serviteur d'Abraham, Éliézer, rencontre Rebecca et lui demande de revenir dans son pays pour épouser Isaac, le fils d'Abraham, et l'ancêtre lointain de Jésus. Alors, est-ce que Jean fait allusion à ce texte, ou ces textes de l'Ancien Testament, ou est-ce que c'est simplement une coïncidence que Jésus rencontre une femme au puits? Tout de même, c'est un rendez-vous classique, peut-être, dans ce genre de culture. Mais je ne pense pas que ce soit un hasard. Dans le texte précédent, Jean-Baptiste parle de Jésus comme le marié. Et que c'est normal que tous aillent vers lui, parce que c'est lui le marié. Le peuple doit aller vers lui. Et nous verrons dans ce passage comment Jésus conduit cette femme à la foi. Comment il a conduit à faire partie de son peuple. L'Église, qui est son épouse. Alors c'est bien sûr une image, c'est une métaphore d'une réalité qui dépasse de loin le mariage terrestre. L'évangile de Jean n'est pas le code d'un ainsi où Jésus n'a pas épousé une femme. Loin de là. Dans le texte de la Genèse, le père de Rebecca a demandé à Rebecca, « Veux-tu partir avec cet homme ?» Et elle a répondu « Oui ». Et on verra que cette femme samaritaine va répondre « Oui » aussi, mais pas tout de suite. Alors on voit que c'est Jésus qui prend l'initiative. La femme, elle, s'occupe de ses affaires. Et c'est Jésus qui va vers elle. Il est intentionnel. Alors les chrétiens parlent souvent de comment ils sont venus à la foi, la décision qu'ils ont prise de suivre Jésus. Mais la réalité, c'est que c'est Jésus qui est venu nous chercher. La grâce nous précède. L'Épître aux Éphésiens parle de ceux qui mettent la foi en Jésus comme étant choisis dès avant la fondation du monde. Alors cette femme n'est pas encore acquise à la foi, mais Jésus est venu la chercher. L'amour de Dieu porte déjà sur elle. Alors le choc pour le premier lecteur est que c'est une femme, c'est encore à la fois, cette femme est à la fois une femme et une samaritaine. Alors qu'est-ce que Jésus fait? On comprendrait avec Nicodème du passage précédent, donc un bon juif, un responsable du peuple, mais qu'est-ce que Jésus fait là? Mais nous le savons déjà, il est le sauveur du monde et aucun peuple n'est trop différent, trop éloigné, trop pauvre pour que Jésus ne s'intéresse pas à lui. La femme, elle, en est étonnée. Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Elle tombe des nuées. Mais on dirait aussi qu'elle semble s'en méfier. En tout cas, elle ne s'empresse pas à lui donner à boire. En fait, elle ne lui donnera pas du bois, pas à boire du tout. Et c'est une femme qui ne se laisse pas impressionner. Alors peut-être que vous êtes méfiant aussi. Vous venez le dimanche matin pour écouter, pour comprendre qui est ce Jésus, quel est son message. Mais au fond de vous, il y a une certaine méfiance, une crainte. Et vous gardez Jésus un peu à distance, pour l'instant. Jésus vous comprend, il ne s'en offusque pas. Et surtout, il ne va pas lâcher du lest, c'est lui qui poursuit, c'est lui qui prend l'initiative. Et pour le chrétien qui veut partager sa foi, Jésus est un bon modèle à suivre. Il ne se laisse pas dérouter ou décourager par la méfiance de cette femme, il engage le dialogue. Il persiste non pas de manière lourde ou écrasante, mais de manière ferme et douce et intentionnelle. Jésus lui répond doucement mais fermement au verset 10, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. » Alors, elle ne pouvait pas savoir à ce stade à quel point elle s'était trompée. Elle est ignorante de qui est là devant elle. Elle ne connaît pas Jésus. Avec un brin d'incrédulité, elle lui demande s'il peut être vraiment plus grand que Jacob, celui qui lui a donné ce puits. Elle reste méfiante, elle est sur ses gardes. Elle ne va pas se faire avoir par ce juif qui a pris l'initiative en allant vers elle. Mais Jésus ne répond pas à cette incrédulité de manière cassante ou méprisante. Jésus ne se cache pas, il commence à parler très franchement avec elle. Et sa réponse dévoile qui il est et ce qu'il peut faire. Et ça, c'est une grâce que Jésus lui fait parce que celui qui le connaît, qui voit qui il est, peut commencer à mettre sa confiance en lui. Donc verset 13, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. » En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Jésus lui annonce qu'en lui, on peut être pleinement satisfait. L'eau qui donne étanche la soif aujourd'hui et jusqu'à dans l'éternité. Il nous comble pleinement. Il est en train d'offrir à cette femme la vie abondante, le pardon, l'amour de Dieu, la réconciliation permanente avec Dieu, l'espérance de la vie éternelle. Mais comme Nicodème dans le passage précédent, cette femme ne comprend pas. Elle raisonne de manière terrestre, comme Nicodème. Elle lui dit, « Donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif, je n'ai plus à venir puiser ici. » Alors Nicodème était un homme éduqué, un docteur de la loi, un des grands responsables du peuple, un homme respecté, respectable. Ici, on est probablement dans la présence d'une femme qui n'est jamais allée à l'école. Mais les deux ont besoin d'une action de l'esprit. Les deux ont besoin d'entendre les paroles vivifiantes de Jésus pour comprendre qui il est, leurs besoins et aussi ce qu'il peut faire pour eux. Veux-tu partir avec cet homme ? Elle semble dire oui, elle veut cette eau, mais elle n'a pas encore compris ce qu'il lui offre. C'est vrai, on peut venir à Jésus et à la fois de manière terrestre, parce qu'on ne veut plus tirer de l'eau au puits, parce qu'on veut se donner bonne conscience, parce que c'est une habitude familiale, pour se faire bien voir, pour se faire des amis. Et c'est vrai que souvent notre cheminement dans la foi commence par là. Mais Jésus veut bien plus que ça. Il ne se contente pas de la réponse superficielle de cette femme. Jésus veut lui donner cette eau qui va la combler dans son fort intérieur. Il veut lui montrer toute la grâce et l'amour de Dieu pour elle. Jésus ne veut pas lui donner une version bradée de la foi. Et c'est pour ça qu'il met son doigt sur un endroit délicat de sa vie. Jetez un coup d'œil sur les versets 16 et 17. « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Alors c'est juste possible qu'elle ait eu 5 mariages qui se sont terminés de manière légitime, par des veuvages par exemple. Mais tout porte à croire que ce n'est pas le cas. Et au moment de parler avec Jésus, elle semble vivre une relation illicite. Jésus met son doigt là où cette femme semble essayer de trouver sa satisfaction ultime. Elle a essayé de combler sa vie par des hommes successifs, par des relations humaines, sexuelles successives. Et à chaque fois, la relation n'a pas pu porter le fardeau d'une telle attente, d'une telle divinisation. Une relation humaine ne peut jamais donner une telle satisfaction. Il n'y a que Dieu qui peut donner ça, qui peut combler nos âmes. Il n'y a que l'eau que Jésus offre qui peut étancher notre soif spirituelle et émotionnelle de manière ultime. Cette femme semble avoir fait de ses mariages une idole. Et les idoles ne satisfont jamais. Elles finissent par lâcher et par semer la destruction. Et c'est peut-être pour ça qu'elle ne s'est pas mariée avec ce sixième homme. Elle se protège. Lorsqu'on remplace Dieu avec autre chose tirée de la création, nous nous trompons royalement, mais nous finissons par nous faire du mal. Le péché est mal, mais il nous fait du mal. Alors ce Jésus n'est pas un interlocuteur facile ou confortable. Il ne ménage pas les gens. Il voit le cœur de chacun. Il voit notre manière de remplacer Dieu, de le détrôner. Il voit sur le plan pratique notre soif de chercher notre satisfaction, notre bien-être, notre sécurité, notre épanouissement, notre joie ailleurs qu'en lui et qu'en ses promesses. Pour certains, c'est la sécurité que les biens matériels apportent ou qu'une relation humaine promet de nous donner. Pour d'autres, c'est le contrôle ou l'influence des personnes autour de nous. Pour d'autres encore, c'est l'approbation, la reconnaissance, l'amour de quelqu'un d'autre. Chacun de nous, qu'on en soit conscient ou non, a cette tendance fâcheuse d'adorer autre chose que Dieu, de trouver refuge ailleurs qu'en Dieu. On bâtit nos vies et nos espoirs dessus. Mais un jour, tout s'écroule. Ce sont des dieux qui ne peuvent satisfaire nos cœurs et dont l'eau ne jaillit pas jusqu'à dans l'éternité. Alors Jésus ne rejette pas cette femme. Au contraire, c'est lui qui a pris l'initiative. C'est lui qui est allé vers elle. Il a fait en connaissance de cause. Sa vie ne lui fait pas peur. C'est elle qui l'a choisie. Jésus est en train d'appeler cette femme à faire partie de son peuple. C'est lui qui est allé la chercher. Aux yeux de quelqu'un comme Nicodème, le bon docteur juif, elle aurait été probablement la moins probable d'entrer dans le royaume. Pourtant, son créateur est venu à son secours. Jésus est le sauveur du monde. Personne n'est allé trop loin. Personne n'a fait trop de bêtises pour que l'amour de Jésus ne puisse pas l'atteindre. Parce que si vous avez l'impression que vous ne serez jamais à la hauteur de Dieu, jamais à la hauteur de Jésus, ce texte nous rappelle que d'une part c'est vrai, on ne sera jamais à la hauteur de Jésus, mais d'autre part Jésus est venu nous chercher. Il est venu chercher et sauver les gens comme nous, comme vous. Cette femme fait ce que tout être humain fait quand le sujet devient un peu gênant. Elle regarde ailleurs et elle change de sujet. Elle est un peu l'illustration parfaite du chapitre 3. Quand la lumière brille, elle se réfugie dans les ténèbres. Le refus de venir à Jésus est souvent, sinon toujours, moral. Et lorsqu'on parle et discute avec nos amis athées ou autres, nous faisons bien de nous le rappeler. Ce Jésus n'est pas un interlocuteur facile ou confortable. Il ne ménage pas les gens parce qu'il ne veut pas qu'ils restent esclaves de leurs idoles, mais qu'ils en soient libérés, qu'ils trouvent la satisfaction de cette eau vive qui lui seul peut offrir. Alors Jésus n'est pas gêné par ce changement de sujet. Il discute paisiblement, avec douceur, et répond aux questions de cette femme. Mais Jésus en même temps ne tourne pas en rond. Il parle quand même avec elle de manière intentionnelle. Encore une fois, Jésus est peut-être un modèle pour nous, un modèle à suivre. Ce débat religieux au sujet du temple que la femme évoque au verset 19, un peu pour éviter de parler de sa situation personnelle, en fait, finalement, permet à Jésus de la conduire à mettre sa foi en lui. Les Samaritains adoraient Dieu sur une montagne près d'une ville qui s'appelle Nablouse en Cisjordanie. Les Juifs, eux, adoraient Dieu au temple à Jérusalem. Alors, c'était un point de contestation entre ces deux peuples. Alors, Jésus ne ménage pas les sensibilités des Samaritains. Jésus dit clairement que dans ce débat, les Juifs avaient raison. Il fallait adorer Dieu au temple de Jérusalem. Mais en même temps, Jésus conduit cette femme à l'adoration véritable. Il veut la conduire à cesser de faire confiance à ses idoles. Cette quête, cette soif de satisfaction qui se manifeste dans ses multiples mariages, il veut la conduire à lui faire confiance. Il dit à la femme au verset 21, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Et plus loin au verset 23, il ajoute, « Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Parce que le temple juif à Jérusalem est déjà en passe de disparition. Il a une date limite, et selon Jésus, la date de péremption est déjà arrivée. Pourquoi ? Parce que lui, Jésus, est là, le Fils du Père. Et plus loin dans cet évangile, Jésus va dire, « Je suis le chemin. » Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est en train de lui montrer que la foi, à quoi ressemble la foi et l'adoration authentique. Et les deux sont centrés sur lui. Ce n'est plus une question de temple, d'endroit sacré, d'église ou de chapelle. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Grâce à l'Esprit de Dieu qui n'est pas limité dans le temps ou dans l'espace, nous pouvons avoir un plein accès au Père par le Fils, où qu'on soit. C'est Jésus lui-même qui est notre temple. Il est le lieu où on rencontre Dieu. Lui est notre sacrifice. Il est notre sacrifice. Nous n'avons pas besoin de lui apporter des choses. C'est lui qui nous représente. Il suffit de venir au Père, faisant confiance à Jésus, les mains grandes ouvertes, en toute simplicité, avec la foi d'un enfant. Alors cette femme n'est toujours pas à 100% convaincue. Sa réponse est toujours un peu évasive. Au verset 25, elle essaye de dire à Jésus, bon, « De toute manière, on saura lorsque le Christ vient, lorsque le roi envoyé par Dieu vient. C'est lui qui va tout annoncer. C'est lui qui sera l'autorité ultime sur ces questions-là. » La réponse de Jésus est d'une clarté extraordinaire. « Je le suis, moi qui te parle. » Encore une fois, c'est une grâce que Jésus lui fait. Il se dévoile, il se montre tel qu'il est. La véritable foi n'est pas vague, mais elle porte sur la personne de Jésus. La foi s'accroche à lui, à Jésus, le roi qui est Dieu lui-même. La foi croit ses paroles, elle croit ses promesses. Alors, les disciples reviennent et la femme part dans la ville. Le verset 28 nous dit qu'elle laisse sa cruche comme si elle n'en avait plus besoin. Elle part à toute allure pour rappeler ses concitoyens à venir entendre les paroles salvatrices et vivifiantes de Jésus. Elle est délivrée de la honte et de la culpabilité. Au début, elle n'avait pas voulu tout dire à Jésus, elle en avait honte. Mais là, elle annonce à tout le monde que ce Jésus connaissait tous les détails de sa vie. Ce Jésus l'a traité avec bonté, patience et grâce. Il a conduit à croire ses paroles et à croire en lui, à trouver en lui sa satisfaction ultime. Alors tout ça s'est passé à midi, autour d'un puits en Samarie. Mais plus loin dans cet évangile, également à midi, Jésus sera envoyé à la croix. Au chapitre 19, verset 14, nous lisons, « C'était le jour de la préparation de la Pâque. Il était environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Et Jésus sera livré à être crucifié. Et sur la croix, Jésus va crier, « J'ai soif. » On lui a offert du vinaigre à boire. Alors c'est une de ces ironies dont Dieu seul est le maître. Jésus étanche notre soif en s'assoiffant lui-même, en se privant de la présence de son Père. Lorsque Jésus nous offre une eau vive qui jaillit jusqu'à dans l'éternité, Jésus parle de la présence bienfaisante de Dieu, de l'Esprit, de son Père dans nos vies. Et c'est la croix, c'est le sacrifice de Jésus à la croix qui rend cela possible. C'est en mettant notre confiance en Jésus, en ce qu'il a fait à la croix, que nous pouvons venir au Père par le Fils. C'est là que nous voyons à quel point Dieu nous aime, à quel point Dieu veut nous combler. Le prophète Ésaïe dit en décrivant le ministère du serviteur qui est Jésus, « C'est par ses blessures que nous sommes guéris. » C'est le pardon, la réconciliation que Jésus nous gagne à la croix qui nous ramène au bercail, qui nous ramène dans la présence bienfaisante, guérissante de notre bon Père céleste. Jésus nous offre tous, qui que nous soyons, quelle que soit la complexité ou la confusion morale de nos vies, cette eau vive, pleinement satisfaisante. On peut la goûter dès aujourd'hui, même si on va la goûter peut-être plus pleinement au jour de son retour. Comme les habitants de cette ville qui disent au verset 42, « Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Bah, » il suffit de croire les paroles de Jésus, de nous détourner de nos idoles peu satisfaisantes, mensongères, et croire ses paroles, recevoir de lui cette eau vive qui découle de son sacrifice à la croix. Alors si ça fait un moment que vous pesez les paroles de Jésus, peut-être avec une certaine méfiance, puis-je vous encourager à faire le pas ce matin, à accepter ses paroles, à bâtir vos vies dessus. Jésus n'est pas une idole qui va vous lâcher, qui ne va pas supporter votre vie. Il peut vous satisfaire pleinement. vous encourage à simplement prier le Père de manière simple pour lui dire que désormais, vous voulez croire les paroles de son Fils et faire confiance à lui et son sacrifice. Ce passage est le récit d'une conversion à la fois douce et dramatique, mais il peut être aussi le récit de notre expérience de tous les jours. Jésus veut que nous n'ayons plus soif, que nous trouvions notre pleine satisfaction en lui. La question que nous pouvons nous poser ce matin, c'est est-ce que nous sommes satisfaits en lui? Est-ce que nous avons cette eau vive dans nos vies? Parfois, sans le savoir, en tant que chrétien, nous commençons à chercher ailleurs notre satisfaction ultime. Et pour la plupart, on ne s'en rend même pas compte. Les idoles mensongères ont toujours l'air attractifs. On essaie de combler nos besoins de reconnaissance, d'estime de soi, de sécurité, d'amour, ailleurs qu'en Jésus. Mais tôt ou tard, ces idoles de cœur nous lâchent et nous éprouvons l'insatisfaction ou la frustration qui nous conduisent à l'impatience ou à l'amertume ou la fierté ou l'égoïsme, la colère, l'anxiété, plein de choses. Mais ce sont ces comportements-là qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui cloche. Ils indiquent que c'est grand temps de revenir à Jésus, à la source de la vie. Jésus veut nous rappeler ce matin qu'il est le sauveur du monde, le seul sauveur du monde. C'est lui qui peut nous donner, qui que nous soyons, quelle que soit la confusion morale de nos vies, une eau qui étanche pleinement notre soif. Revenons à lui ce matin, à ses pieds, au pied de la croix, dans la repentance, dans la foi. Et c'est son pardon, son amour, sa présence bienfaisante, ses promesses qui vont nous conduire à rejeter ces fausses promesses de joie et de sécurité. On va trouver en lui notre pleine satisfaction. Demandons à Dieu de nous aider à voir où nous avons véritablement mis notre espérance. Demandons-lui de nous conduire cette semaine, jour après jour, à la source de cette satisfaction véritable, à Jésus lui-même. Je vous invite à la prière. On va prier. Merci, notre Père, de ce que tu veux connaître la vie et la vie en toute son abondance, toute sa plénitude. Tu ne veux pas nous donner une vie creuse, mais tu veux que notre vie soit comblée par ton amour, ta joie, par toi, tout simplement. Et Père, tu connais nos cœurs, tu connais aussi les idoles de nos cœurs, où nous essayons de trouver notre satisfaction. Père, chacun de nous a du mal dans ce domaine, et Père, nous voulons te demander de nous aider à venir humblement à Jésus, à trouver notre satisfaction, notre joie, notre sécurité, notre avenir, notre reconnaissance, notre identité en lui. Père, nous voulons te demander vraiment de nous conduire cette semaine sur les chemins de cette vie-là, avec Jésus au centre. Nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.